France Culture.
On verra venir des temps obscurs. Oui, je pense qu'on y est. Et plus qu'auparavant, on peut avoir besoin de cet exercice de l'art qu'est la littérature qui se sert de l'imaginaire.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans au programme de votre book club aujourd'hui, extrêmement différents, mais que nous réunissons pour des histoires d'éléments naturels déchaînés, d'éléments chaotiques et tempétueux. Ils partagent aussi, ces deux premiers romans, une attention à la vulnérabilité des êtres, aux violences colonisatrices, à la violence masculine, deux forces ancestrales qui ont blessé la terre et les vivants. Dans leurs pages, les personnages se cognent, s'entraident parfois, abandonnent l'idée d'un moi solide, apprennent à nager. Le tout dans deux langues très différentes, elles aussi, mais très enthousiasmantes à découvrir. Eléa Marini publie Le ciel, la mauvaise aux éditions de l'Olivier et Julia Lepère fait paraître La mère et son double aux éditions du Sous-sol. Les deux autrices sont nos invitées. Ensuite, et comme chaque semaine, nous parlerons littérature jeunesse avec Mathilde Wagman. Elle évoque aujourd'hui une BD plutôt douce et plutôt à destination des ados qui raconte le parfois difficile passage à l'âge adulte. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Eléa Marini.
Bonjour.
Votre livre Le ciel, la mauvaise, c'est le titre donc de ce premier roman paru aux éditions de l'Olivier. Soyez la bienvenue, on est ravis de vous recevoir à cette table pour ce livre. Et bonjour Julia Lepère.
Bonjour.
La mère et son double, apparu aux éditions du Sous-sol, c'est aussi votre premier roman, c'est pas vos premiers écrits, mais le premier roman c'est quelque chose quand même quand ça arrive dans une librairie, donc on évoquera tout à l'heure peut-être cette sensation particulière. Soyez toutes les deux les bienvenues dans le Book Club ici, tout commence toujours par des portraits de lecteurs et de lectrices de nos invités. On se dit qu'en parlant de leur rapport au livre, on parle un petit peu d'eux, on fait un peu connaissance. Vous diriez que vous avez grandi dans quel genre de rapport au livre, Eléa Marini ?
Je dirais que le rapport au livre dans ma famille, il a été mouvant, puisque mes parents m'ont eu assez jeune, ils avaient 23-24 ans. C'était une période où ils lisaient peu ou pas. Et puis finalement, ma mère venait d'un milieu très populaire. Elle avait peu d'expérience de lecture et finalement, elle s'est dit qu'elle allait... quitter un petit peu ce destin qui devait être le sien, et elle a déménagé dans le sud de la France. Elle s'est inscrite à l'université, et là peu à peu elle a commencé donc son parcours de lectrice, d'abord beaucoup en lien avec ses études, puis peu à peu avec des romans, d'abord des classiques, puis surtout de la littérature contemporaine. Et donc
vous avez regardé ça, vous avez vu ça?
J'ai vu ça sans vraiment le voir, parce bien que sûr. J'ai grandi en voyant en même temps que ce ouais. mouvement là exactement. Parallèlement, mon père n'était pas vraiment un lecteur, mais je pense qu'il avait un grand désir de lecture. Simplement, il travaillait beaucoup et il a peu trouvé le temps de lire, mais il avait ce désir fort. Donc, en tout cas, moi, j'ai grandi avec ce mouvement-là qui a été changeant à travers les années, et avec beaucoup d'histoires du soir, et puis aussi beaucoup d'histoires orales, notamment racontées par mon beau-grand-père, pour simplifier, qui a passé des heures et des heures dans mon enfance et à me faire des récits issus de l'Ancien Testament, de contes et légendes, de divers et variés.
Beaucoup sans les lire.
Sans les lire. Ouais. Des chevaliers de la table ronde, beaucoup de choses comme ça. Donc le rapport à la fiction, à l'imaginaire, il a toujours été là. Et dès que j'ai appris à lire en CP, j'ai lu... tout de suite, mon premier roman de Roald Dahl, c'était La potion magique de Georges Bouillon. Mais comme à ce moment-là, j'avais pas encore appris le son G-E-O, j'ai lu tout le livre en pensant que le personnage s'appelait Gorge. Et je trouvais ça tout à fait normal qu'un personnage s'appelle Gorge.
Évidemment, ça peut arriver dans la vie, on sait jamais, alors qu'il s'appelait Georges, comme de voilà. bien entendu. Mais oui. C'est étonnant, c'est assez beau, vous racontez finalement comment vous avez pu vous accrocher à trois désirs de livres, ou trois désirs de langue, ou trois désirs de littérature exprimés de façon assez différente. Comment est-ce que vous deviniez le désir de lecture de votre père qui n'avait pas le le temps de le faire parce que trop de travail?
Parce qu'il en parlait.
Ah ouais.
Et parce que il demandait de temps en temps qu'on lui offre des livres. Mmh. Il en parlait.
C'était là.
C'était là. Et puis il était un peu rattrapé par le quotidien, en fait, tout simplement, et par le fait qu'il avait des horaires énormes et qu'il était inévitablement assez fatigué, même dès son jeune âge. Lui venait d'un milieu plus aisé où il y avait un rapport à la lecture qui était certainement plus développé, mais tout de suite il a été entre les études et le travail, le travail qu'il faisait à côté pour gagner un peu d'argent, pris dans un rythme très effréné qui a duré finalement toute sa vie. Mais il avait une grande curiosité malgré tout, et ma mère est devenue finalement une très grande lectrice, et voilà, tout ça c'est beaucoup partagé, relayé.
Et alors vous là-dedans, qu'est-ce que vous devenez comme enfant, ado et jeune adulte lectrice ?
J'ai toujours lu. Du coup, vraiment, depuis cette découverte, je pense que ça a été la chose la plus enthousiasmante que j'ai vécue, ce premier roman de Roald Dahl, avec ensuite un amour dévorant pour Roald Dahl pendant toute mon enfance. Et je dévorais les livres. Vraiment, pendant des années, ça a été le cas. C'est encore le cas. Il y a eu peut-être de très brèves phases de ma vie où j'ai pas lu pour des raisons, contextuelles. Mais sinon, ça a vraiment toujours été là. Et j'ai été très sensible, je pense aussi à des collections et à des maisons d'édition. Je me rappelle que préadolescente, j'avais lu un livre de Mario de Muraille dans la collection Medium de l'école des loisirs, Oh Boy, qui m'a vraiment, vraiment marqué, que j'ai adoré. Et ensuite, je partais du principe que tous les livres, du coup, de cette collection-là, forcément, étaient intéressants. Et donc, je les cherchais à la bibliothèque.
Ce qui est vraiment un savoir pour une adolescente qui est peu commun, de s'intéresser à des collections et d'avoir découvert l'idée que des maisons d'édition, que des collections vous promettent des découvertes à la hauteur de celles que vous avez déjà faites. C'est peu commun.
Peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les bibliothèques. Mmh. Et c'est vrai que du coup, il y a une telle profusion qu'il fallait pouvoir s'y repérer. Et donc, c'était un repère que j'avais. Tout comme j'ai eu après avec l'Olivier, justement, un peu plus tard.
On y reviendra peut-être sur des lectures plus contemporaines et qui auraient pu marquer votre parcours. Mais je vous retourne la question. Julia Lepère, vous avez grandi dans quoi comme rapport au livre ?
Alors moi, c'est un peu particulier, du coup très très différent, parce que mon père était poète et écrivain, et ma mère est écrivaine, et du coup, c'était quelque chose où il y avait toujours des livres à la maison, et c'est vrai qu'on parlait toujours de littérature, mais d'une manière qui, pour une enfant, était pas très... Enfin, c'était pas très évident de s'y raccrocher concrètement, mais en tout cas, il y avait toujours cette espèce d'idée que la littérature faisait partie des sujets, quoi. Et puis je voyais souvent ma mère écrire, mon père écrire, donc il y avait aussi ce rapport-là à l'observation aussi de personnes en train d'écrire. Ce qui est encore autre chose, et du coup il y avait des livres à la maison, il y avait tout ça.
Ça veut dire quoi, on parle de littérature, ça prenait quelle forme par exemple ?
J'avais un père qui était d'un parent très animé, donc il y avait beaucoup de débats, il y avait aussi beaucoup de... Il
se lisait à table, j'ai lu ça, ouais, j'en pense ça.
Voilà, ça c'est nul, ça c'est super. Et puis aussi des rapports de relecture entre eux aussi, où mon père lisait les manuscrits de ma mère et inversement, et du coup ils s'en parlaient. Du coup, ça faisait comme de la littérature une matière très, très concrète et très mouvante. Et moi, à côté de ça, Léa m'a rappelé Roald Dahl, que j'ai effectivement adoré aussi. J'ai tout lu quand j'étais petite. Et sinon, j'avais une grand-mère aussi qui lisait beaucoup et qui m'a fait découvrir plein de textes qui ont été très importants pour moi. Et assez jeune, en fait, je me rends compte qu'elle se préoccupait pas trop de si j'étais prête à les lire ou pas.
Qu'est-ce qu'elle vous mettait dans les mains, par exemple ?
Elle m'a mis entre les mains Guerre et Paix, à genre 11 ans. J'étais un peu là,
bon après-midi.
Je vais lire ça.
À tout à l'heure.
Différemment, mais Les Hauts de Hurlevent aussi, Les Sœurs Bonté, ça a été des lectures qu'elle m'a fait découvrir et j'ai adoré. Et puis des textes un peu plus durs, comme des textes de Mauriac, de Barbé d'Aurevigny, qui étaient ses goûts en fait, et qu'elle me transmettait comme si finalement je pouvais avoir accès à ça.
Et alors, qu'est-ce qu'il en était de la jeune adolescente se retrouvant avec ça dans les pattes ?
Et ben moi j'ai adoré, j'ai une vraiment passion pour ces textes-là. Je pense que je n'en comprenais évidemment pas tout. Après, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai développé un rapport avec la lecture plus tard, qui était de l'ordre de la relecture. Mmh. Du coup, j'ai beaucoup aimé relire ces textes en ayant l'impression d'avoir plus la sensation de pouvoir y avoir accès. Parce que ce que je comprenais, moi, enfant, de ces sentiments, de ces étrangetés, forcément, c'était transformé. Et puis j'avais pas accès, je pense, à plein de choses, mais j'avais comme un peu le goût de ça. Voilà.
Et donc, vous avez continué à lire, ça continue d'être important dans votre vie ?
Oui, que pareil, j'ai toujours continué à lire et c'est... Pour moi, la lecture a toujours représenté une forme de refuge, ou vraiment quelque chose où...
Qui est un mot assez important dans les deux romans qui sont oui. Au programme aujourd'hui, ouais.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Et...
Quelle qualité la lecture serait un refuge ? Parce que c'est quelque chose qui est souvent prononcé, mais si on essaye d'aller au-delà de la formule de la lecture qui serait un refuge, ou les livres, ce serait un refuge, mais pour vous, ça veut dire quoi, concrètement ?
Bah, pour moi, ça s'est passé très jeune, en tant qu'enfant, où je pense qu'il y avait une forme de réel, peut-être, qui était soit pas satisfaisant, soit qui comportait une forme de violence ou de quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait. Et dans la lecture, dans la littérature, je trouvais... d'un coup, je me viens l'idée d'une cabane, quoi. Mmh. Enfin, d'un petit endroit, mais d'une cabane vraiment très, très protégée, quoi. Où, en fait, le livre, c'est cet espace clos dans lequel on plonge. Et tout d'un coup, c'est pas qu'il ne peut rien nous arriver, mais presque, puisque de toute façon, on est dans une autre réalité. C'est pour ça aussi que j'aimais bien les littératures de l'imaginaire et le merveilleux. J'ai aussi découvert Le Seigneur des Anneaux, très jeune, que j'ai adoré. Et j'étais aussi portée vers ces littératures un peu fantastiques, qui coupent complètement du monde dans lequel on vit.
Et ça agit toujours comme ça aujourd'hui pour vous, les livres, comme des refuges, comme des cabanes, comme des endroits de retrait ?
Oui, je crois, ouais.
Et vous y chercheriez cela consciemment ?
Maintenant, c'est presque comme une très bonne amie ou un très bon ami ou un frère ou une sœur. C'est quelque chose de tellement familier qui s'est incorporé. Donc j'y vais presque, non, pas consciemment. Pas consciemment, je pense pas. Mais en tout cas, je constate que les périodes où je passe beaucoup de temps à lire, c'est des périodes aussi où j'ai besoin de me couper un peu du monde réel.
Elia Marigny, on n'a pas évoqué, à part Roald Dahl, mais de noms de lectures qui auraient été marquantes. Si on se déplace un petit peu dans la frise chronologique de votre vie, est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent comme ça à l'esprit ?
Oui, je pense que il y a eu l'enfance où il y a eu Roald Dahl, il y a eu Harry Potter, il y a eu plein de choses comme ça. Et puis, en grandissant je dirais 15-16 ans, période lycée, les auteurs qui m'ont énormément marqué à ce moment-là, ça a été Cocteau, Les Enfants Terribles. Je pense que c'est un livre que j'ai beaucoup offert à ce moment-là parce que...
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Les Enfants Terribles ?
L'ambivalence, l'ambiguïté. Et qui m'a le fait de me sentir moi-même, je pense, très décontenancée par cette lecture, de finalement ne pas vraiment savoir
ce que ça vous faisait.
Ouais, ce que ça me faisait, ouais. Ce que ça évoquait, ce que ça voulait vraiment dire de cette relation un peu incestuelle, très ambivalente entre le frère et la sœur.
Le frère et la sœur.
Je l'ai pas relu depuis longtemps, hein, donc c'est un souvenir aussi qui est assez ancien. Mais voilà, c'est le travail du coup. Après, je me suis mise à lire d'autres textes de Cocteau, et c'est quelque chose qui a été une vraie révélation au tout début de mon lycée. Et avec ça, il y a eu la découverte de Hubert Selby, qui a été une énorme claque pour moi. En même temps que, enfin, avec Le Saule notamment, mais aussi Retour à Brooklyn. Que j'ai lu trop jeune, je pense, qui en tout cas sont des textes qui m'ont fait réaliser qu'il y avait vraiment 1000 possibles en littérature. Je pense que jusque-là, j'avais lu des formes relativement classiques, si l'on peut dire, dans la syntaxe, dans la façon dont le texte pouvait être organisé. Et là, il y avait cette espèce d'immense liberté dans la ponctuation, dans
le phrasé.
Qui
tenait à quoi chez Hubert Selby, par exemple ? Qu'est-ce que ça révélait comme possible, formellement parlant ?
Ça révélait une immense liberté par rapport au code syntaxique, au code de ponctuation, au code de construction narrative, de structure. Et ça, c'était incroyable. Alors, je pense que c'était dur en même temps de lire ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappaient, mais ça m'a beaucoup marqué.
Pareil, et ça vous a marqué parce que vous écriviez déjà et que vous disiez « Ah, ça peut être ça. Ça peut être ce terrain de jeu-là, l'écriture ?»
Oui, j'en étais absolument pas capable à ce moment-là. J'ai écrit mes premières histoires dès le CP. La toute première, elle parlait d'une tempête, justement.
Tiens donc.
Et peut-être pas la toute première. Non, la toute première, ce que j'ai retrouvé, ce fameux carnet, il y a pas longtemps, elle parlait d'un chat et d'un chien qui voulaient devenir amis. Mais la deuxième ou la troisième, elle parlait d'une tempête. Et j'ai toujours eu beaucoup peur du vent. Et c'est quelque chose qui est resté. Mais en tout cas, il y avait voilà ce rapport à
Je me suis perdue. À la liberté dans la forme que vous découvrez.
À la liberté, effectivement, dans les formes. J'ai écrit pas mal étant enfant. Je m'amusais à inventer des jaquettes de films. C'était l'époque où on avait des
cassettes VHS.
Oui, ouais. Tout à fait. À imaginer des films, des scénarios, des titres, des comédiens, des résumés. J'aimais beaucoup faire ça. Et puis après, des nouvelles quand j'étais au lycée, effectivement, mais qui restaient sur une forme beaucoup plus classique. En tout cas, c'était une immense ouverture, tout comme William Burroughs à la même époque. Pareil, un peu l'utre jeune, je pense, la machine molle, le festin nu, des choses comme ça qui... Je peux pas dire, je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et en même temps, c'était fou parce que c'était un tout autre rapport aux mots. Et on n'était plus vraiment dans la question de la narration, du récit, de l'histoire, mais juste en fait dans le fait d'être porté par des mots associés ensemble qui pouvaient créer une très grande violence, ou un effet en tout cas assez très puissant, voire dévastateur sur le lecteur. Et ça, c'était une immense découverte.
Je pense à la griffe, c'est dans votre roman, hein, Julia Lepers, qu'il y a le motif d'une griffe, d'un visage griffé.
Oui, une griffe,
oui, et en vous écoutant, je pense presque à la manière dont un livre peut peut-être ne pas nous laisser de rapport à la trame, au personnage, à la narration, mais presque une griffe, quoi, quelque part, sur le corps. Julia Lepers, est-ce que vous voulez donner quelques noms comme ça, qui auraient marqué votre parcours de lectrice, des rencontres importantes, au-delà des livres que votre grand-mère met très vite, très jeune, entre vos mains?
Oui, bah, il y a eu aussi un petit peu il y a eu la découverte de la Beat Generation qui a été importante pour moi à un moment. Sachant que j'étais toujours aussi très versée dans la lecture de poésie, et du coup pas seulement romanesque, et du coup dans la Beat Generation, il y avait avec Kerouac, j'ai vraiment découvert quelque chose en termes d'oralité qui me faisait très penser à la poésie, mais qui était de l'ordre du roman, avec Ginsberg aussi, ça m'avait vraiment fascinée. Un auteur qui est très très marquant pour moi, et qui n'est pas, je pense, extrêmement connu, c'est Mervyn Peake, qui a écrit Gormenghast, qui est mort, je crois, plus ou moins dans un hôpital psychiatrique, qui a eu une fin de vie très difficile. Et son roman a été plutôt connu de manière posthume. Et c'est sur un lieu, Gormenghast, c'est un château. Et c'est un roman gothique, un peu avec des personnages très baroques. Et c'est vrai que je sais que la lecture de ce livre m'a... Je sais pas, c'est tellement original et inédit comme livre. Je cherche toujours un peu l'étrangeté en littérature. Et là, il y avait une forme d'étrangeté, une forme de folie que j'avais jamais. Je l'ai pas lu si jeune que ça, justement. Et c'était drôle de se dire qu'on pouvait encore découvrir des univers totalement fous. Et c'est sur la question aussi du lieu monstre, parce que ce château, c'est à la fois, bon, j'en parle, c'est un peu aussi présent dans mon roman, mais ce château, c'est à la fois une entité, c'est à la fois un temps, c'est à la fois, c'est bien sûr un espace, mais c'est vraiment un personnage.
Qui fait quand même penser à ce que vous faites de paix,
voilà.
Qui est cet espace-là, qu'on peut géographiquement pas complètement situer, et puis presque qui est une sorte de matière en tant que telle, quoi.
Oui, c'est ça, complètement. C'est une matière mouvante, et c'est aussi un lieu qui avale. Et sinon, il y a eu aussi la découverte de Virginia Woolf, qui a été très importante pour ce qu'elle fait au langage et pour la poésie qu'elle met dans le langage. Dans un genre très différent et peut-être plus peut-être prosaïque, il y a Laura Kashish que j'aime beaucoup, et comme elle vient de la poésie, je m'étais un peu identifiée à elle au moment où j'avais envie d'écrire un roman, et je me suis dit elle a écrit beaucoup de poésie, elle s'est mise à écrire des romans,
ce qui permet de placer au passage que en effet vous avez des parutions plus de l'ordre de la poésie, et que vous avez aussi tout un travail de performance où vous portez le texte dans des formes plus scéniques. Voilà,
exactement, c'est ça, exactement. Et comme elle avait justement ce parcours de poétesse qui s'est mise à écrire des récits, je me suis aussi identifiée à elle, parce que je trouvais qu'elle arrivait à la fois à convoquer l'image poétique, à la faire surgir d'une manière très forte et assez indiscutable et en même temps de pouvoir mener ce suspense et de pouvoir construire ce récit de manière très forte, comme peut-être le font plus les Américaines, les Américains, je sais pas, mais... Voilà, en tout cas, ça a été une autre découverte qui a été importante.
On va parler de vos deux romans juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Icani, Les Chiens. Une chanson toute récente et toute rugueuse dans laquelle les musiciens-chanteurs constatent le peu de lumière dans le monde et le peu d'amour.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans au programme de votre Book Club aujourd'hui. Des premiers romans parmi les 65 premiers romans parus en cette rentrée littéraire de janvier 2026. Deux romans où l'eau et la température montent, entre autres. Le ciel, la mauvaise, c'est le titre du roman que vous faites paraître aux éditions de L'Olivier. Eléa Marini, la mer et son double, c'est le titre du premier roman que vous faites paraître aux éditions du Sous-sol. Julia Lepère, quand on réunit comme ça autour de notre table, et on aime le faire, des premiers romans, on aime bien poser la question du titre. C'est important quand on entre comme ça en littérature et quand on arrive en librairie de bien choisir son titre, en tout cas de le choisir. Eléa Marini, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce titre-là, Le ciel, la mauvaise ?
C'est un...
Vous semblez prendre une grande respiration en mode genre oui, ça m'a demandé beaucoup de travail.
Oui, ce titre, il n'a pas été facile à trouver. Effectivement, il y a eu un titre provisoire pendant longtemps. Il n'est pas arrivé en début ou en cours d'écriture comme ça peut être parfois le cas, plutôt en fin d'écriture. C'est une phrase du livre, c'est une phrase qui est prononcée par le personnage de Charmaine. Et qui finalement était une phrase assez forte sur ce que ça dit de cet environnement, de cette catastrophe climatique, de cet environnement, et puis aussi de finalement ce que vont traverser les personnages.
Mais aussi par rapport au langage quand même, c'est-à-dire voilà. Que c'est une expression populaire, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière aussi de résumer en peu de choses une situation, et c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans votre art de l'écriture des dialogues, il me semble.
Oui, il y avait l'idée de d'opter pour un titre qui pouvait reprendre un petit peu cette façon qu'ont les personnages de s'exprimer, qui nous semblait importante avec justement toute l'équipe de l'Olivier. C'est vrai que c'est quelque chose qui caractérise, je crois, ce texte, d'être beaucoup dans l'oralité. Et c'était très important pour moi que finalement, ce titre, après beaucoup d'hésitations, puisque le premier titre était beaucoup plus concis, soit quelque chose qui puisse représenter un petit peu l'univers langagier des personnages. Il y avait cette importance-là.
Qu'est-ce qu'il en est de la mère et son double ? C'est aussi tout un programme, hein, Julia Lepère.
Oui, c'est tout un programme avec effectivement des références qu'on a ou non en tête, que moi j'avais pas particulièrement en tête d'ailleurs quand j'ai trouvé le titre du réel et son double et du théâtre et son double, mais...
Donc Artaud et Rosset, ouais.
Artaud et Rosset, voilà. Mais c'était pas du tout pour moi une référence. Mais
peut-être que ça a traîné dans la maison quand vous étiez enfant et que c'est passé par vos oreilles et que ça a laissé la griffure dont on parlait tout à l'heure.
Mais complètement. Je pense, enfin en tout cas j'ai beaucoup lu Artaud à un moment, donc je pense que ça a pu jouer. Mais en fait j'avais aussi un titre qui n'était pas celui-là, qui pour le coup n'était pas provisoire, que j'avais trouvé, qui me laissait quand même un peu insatisfaite et je griffonnais un peu... Vers la fin de l'écriture du manuscrit, je griffonnais plusieurs choses et à un moment donné, j'ai écrit La mère et son double et ça m'est apparu comme vraiment une révélation que c'était ce titre-là. Bah, pour des raisons, c'est vrai, dans mon texte, la question du double est fortement traitée.
Peut-être on peut dire rapidement sur quel plan s'est traitée cette question du double, du point de vue de la structure, du point de vue des personnages.
Tout à fait. D'ailleurs, les deux, il y a une double structure dans le récit, donc il y a deux récits qui s'entrecroisent. Il y a aussi l'idée que, enfin, il y a aussi des duplications de personnages ou des personnages qui se retrouvent du coup dans un récit et dans l'autre, ou des figures qui se retrouvent dans un récit et dans l'autre qu'on peut voir comme des doubles. Donc la question du double, et puis dans un des deux récits, une femme se fait repêcher par l'équipage d'un cargo après que l'un des membres de l'équipage s'est jeté par-dessus bord. Donc l'équipage y voit quelque chose que la mère leur rend. Donc il y a déjà cette notion de double, de remplacement. Et donc c'est vraiment le double, c'est quelque chose qui innerve vraiment le récit. Et avec la mère et son double, j'avais, je sais pas, j'avais à la fois, oui, c'est cette histoire de double de la mère qui m'a vraiment frappée sur le coup. Je me suis dit c'est ça, parce que la mère qui dissimule tant de choses, qui peut rendre, qui peut dupliquer, qui peut avaler et puis rendre au rivage. Enfin, il y avait toute cette potentialité de ce que pouvait être ce double de la mère. Qui pour moi était. La mer était assez vaste pour contenir tous les doubles que j'imaginais.
C'est génial parce qu'il pourrait y avoir vraiment une sorte de discours souterrain absolu à toute cette conversation, mais c'est. Voilà. Parce qu'il y a quand même évidemment l'équivocité de ce mot la mer.
Évidemment.
Qui est très vaste et très intéressante, on imagine aussi. Je l'ai dit, ce sont deux romans où les éléments sont très importants. Vous avez dit tout à l'heure, j'avais peur du vent lorsque j'étais enfant et une des premières histoires que j'ai écrites, il était question de tempête. En effet, ça tempête fort. Voilà. Il n'y a rien qui est calme dans les éléments naturels dans vos deux livres. On va écouter une archive de Pascal Quignard.
Il y a quelque chose à chaque fois que j'éprouve, c'est ça m'émeut avant la vie, donc, qu'il y ait eu comme ça ces sons, ces craquements pour aucune oreille et ces éclairs pour aucune vision. Ça ajoute même à une sorte de gratuité énorme avant la vie. C'est curieux que la première définition de la philosophie ait été l'étonnement, qui est le bruit de l'orage lui-même. Il y a chez les enfants, enfin moi en tout cas, mais je pense tous les enfants, le fait de calculer entre le moment de l'éclair et le moment de la résonance orageuse, quelque chose qui les passionne. Et on compte sur ses doigts, et on divise par deux, et on dit ça fait tant de kilomètres. Mais il y a là une sorte d'exercice de l'esprit très 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 ancien, et aussitôt passionné. Il n'y a pas de... D'autre part, il y a quelque chose qui va apporter quelque chose comme le grondement de la mer, le rouleau de la mer. Et je pense que ces deux notions, cette atmosphère orageuse, ce mélange d'angoisse et de joie, d'excitation et d'angoisse quand même, parce qu'il y a quelque chose toujours qui fait peur quand même, bien sûr, lorsque les tsunamis ou les typhons abordent, ça n'est pas toujours autant de bonheur que nous lorsque nous entendons, que nous nous précipitons dehors pour nous laisser tremper par l'orage. Mais c'est ce roulement-là qui va et qui revient, qui est ce double mouvement de la vague, et qui est sans doute profondément l'image de l'inconscient.
L'auteur Pascal Quignard, en 2018 sur France Culture, qui dit beaucoup de choses dans cette archive, mais qui nous permet peut-être de vous faire parler l'une et l'autre, Elia Marigny et Julia Lepère, de la place de l'eau, de la place de l'ouragan, peut-être plus généralement de la catastrophe, en tant que telle, climatique mais pas que, de la tempête, du naufrage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça crée d'un point de vue romanesque dans votre écriture, Elia Marigny ?
La tempête, elle est venue dès les premières lignes que j'ai écrites il y a quelques années quand je vivais et travaillais au Mexique, sans l'avoir réfléchi, sans y avoir pensé avant. Mais il y avait cette évidence que ce texte, voilà, qui naissait sans savoir non plus quelle forme il prendrait, devait être habité par cette catastrophe-là. Je pense que c'est très lié au fait que j'ai toujours été un peu fascinée et terrorisée par les catastrophes climatiques, avec cette peur du vent dont j'ai déjà parlé, et puis qui persiste. Je continue à avoir peur du vent. Et parce que j'ai la sensation aussi que, finalement, ces catastrophes climatiques, elles peuvent être aussi une forme de miroir, un peu de catalyseur des catastrophes ou des douleurs et des blessures émotionnelles que les personnages peuvent porter.
Et dans les deux cas, d'ailleurs, il me semble que ce sont des naufrages qui sont à la fois tout à fait hyper concrets. Il y a vraiment des naufrages où il y a vraiment des ouragans, où il y a vraiment des tempêtes, et à chaque fois, il y a toujours une catastrophe ou une très grande dépression ou un très grand malheur ou un très grand trauma qui a lieu et qui serait comme le double, pour reprendre une de vos procédés, Julia Lepère, et qui serait le miroir de du bordel météorologique. Mais c'est jamais que le bordel météorologique.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et finalement, dans ce texte, il y a l'idée que cette tempête, elle fait écho aux blessures et à l'état émotionnel de ces personnages. Elle les accompagne dans ce cheminement où ce sont finalement des personnages qui sont très heurtés, qui sont très seuls. Et parallèlement, c'est aussi, selon moi, quelque chose qui va leur permettre d'aller vers le lien et vers une forme de réparation, puisque c'est en traversant ça ensemble que, et en perdant leur foyer, que quelque chose va pouvoir finalement se réparer.
Oui, ce que ça crée peut-être comme point de départ dans un texte et dans l'autre, c'est une forme de très grande adversité dans laquelle, du coup, il y a un sursaut possible, des rencontres possibles, en tout cas, un mouvement qui se met en route. Julia Lepère, chez vous aussi, il y a à la fois la mer qui monte, mais il y a donc deux espaces géographiques dans votre livre. Il y a aussi un autre espace où il fait particulièrement chaud. Les éléments ne sont pas tranquilles.
Non, ils ne le sont pas du tout. Et c'est vrai que pour les deux d'ailleurs, en fait, et à la fois pour l'espace trop chaud et pour la mer qui se déchaîne et qui devient mauvaise, il y avait cette idée aussi que les éléments se vengent d'une certaine manière, où il y a cette idée de fin du monde, où tout d'un coup tout se réveille et tout se déchaîne un petit peu, soit pour tout recommencer, créer un grand, un peu comme le dit Pascal Quignard, voilà, revenir à l'origine. Où il n'y avait que ces catastrophes pour créer quelque chose.
Des sons sans oreilles pour les entendre.
Oui, c'est ça, c'est vraiment très beau. Et du coup, il y avait cette idée qu'on est aussi façonné par ces éléments. Les personnages subissent effectivement ces températures, sont passifs et dans une torpeur dans la ville de paix parce qu'il y fait trop chaud. Les marins sont complètement gouvernés par les caprices de la mer. Et il y avait aussi cette idée que peut-être les éléments se vengeraient. Enfin voilà, le capitaine dit ça à un moment donné, que la mer peut aussi se réveiller, et c'est quelqu'un qui sent, qui rumine, et quelqu'une. Et du coup, il y a cette idée de peut-être aussi de vengeance. Et puis ce sont aussi des éléments qui façonnent le récit. Les conditions météorologiques sont très importantes. Le fait qu'il fasse très froid à un moment donné sur le cargo conditionne l'état d'esprit des personnages. La torpeur conditionne leur inaction. Et, Et voilà, et il y a aussi ce rapport, un peu cette dualité du fait que à la fois les personnages essayent de se servir de ces éléments.
Parce qu'ils sont très agis par les éléments.
Exactement, parce que Peter essaye de se servir de la lumière pour les enfants sans en dévoiler trop. Voilà, les marins ont quand même dans l'idée de profiter, d'asservir dans un sens la mer, mais quelque part c'est eux qui sont soumis à ces éléments. Il y a un phénomène de renversement par le fait que ça prenne de dimensions si catastrophiques, justement.
Et c'est intéressant aussi que Pascal Quignard fasse mention de l'enfance et de l'enfant qui écoute l'orage. Et en effet, d'un seul coup, c'est tellement grand. C'est déjà très grand pour des consciences adultes, mais c'est encore plus grand quand on est petit enfant. Et vous parliez de la peur du vent, mais en effet, par exemple, moi j'ai des souvenirs d'enfants où il y avait des très grandes tempêtes et je pensais que vraiment ma maison pouvait s'envoler, alors que très probablement ma maison n'allait pas s'envoler. Et il y a quelque chose de l'enfance qui travaille vos deux textes à bien des égards. Des enfants qui sont ballottés, malmenés ou qui ont été violentés, mais aussi des enfances de l'émerveillement, de l'instant. On va écouter un premier extrait, c'est un extrait de votre texte, Eléa Marini, Le ciel, la mauvaise, et c'est la rencontre justement entre une jeune personne qui s'appelle Beau et une plus vieille personne qui s'appelle Isaac.
C'est un homme qui vient et dont les pas lourds creusent la terre. Beau retient sa respiration. « Qu'est-ce que tu fous là ?»« Rien, » répond le gamin. « Je fais rien du tout. »« C'est des conneries, ça. Tu viens voler des écrevisses dans mon coin. »« J'avais pas idée, mais je vais partir. »« C'est ça, tu pars et tu remets pas les pieds ici. »« Va donc te mettre à l'abri. » Le gamin inspire, soulagé. Un instant, il a cru que l'homme allait le battre, pied au cul et main sonore contre joue molle. Il y a le temps. L'homme regarde le gamin comme s'il n'avait pas toute sa tête. « Rentre donc !» il répète. Beau regarde la nasse enfoncée dans l'eau. Il a mis du temps à pouvoir en racheter une pour remplacer celle que les abrutis du quartier avaient brisée à coups de pierre et de pied. Il n'a aucune envie de l'abandonner là. Il observe l'homme, puis à nouveau la mousse légère qui s'est formée à la surface de l'eau. Il entend un soupir. « Bon Dieu, prends-le, ton piège, et tire-toi !» Le gamin se redresse et mêle son regard à celui de l'homme, mu par l'audace. « Je reviendrai, moi. »« Ah oui. »« Ouais, » dit le gamin avec défi. L'homme sort une cigarette qu'il triture sans quitter le gamin des yeux. « Tu le sais, hein, que t'es chez moi, ici. »«
Ouais, je le sais. »«
Et quand même, tu veux jouer au plus malin. »«
Je fais pas le malin. »«
Je dis juste ce qui est. Je vais revenir. » Ici, les écrevisses, je les chope mieux qu'ailleurs. T'as l'insolence qui va te causer du tort. Peut-être bien, et alors ? Le tort, je connais. Je vais pas en mourir. L'homme regarde le ciel. Tu sais qu'il y a ton temps qui file ? Y a rien qui file. Avec mon vélo, je vais vite. Je rattrape tout. Tu crois ça maintenant ? Le gamin plonge les bras jusqu'au coude au fond de l'eau et en sort la nasse dans laquelle s'agitent quelques écrevisses.
Un premier extrait de votre texte, Eléa Marini, Le ciel, la mauvaise. On est plutôt au début de votre roman et en effet, ces deux personnages se rencontrent. Moi, ça m'a vraiment fait penser à des grands romans comme Des souris des hommes de Steinbeck ou La route de Cormac McCarthy. C'est vraiment des espèces de duos qui se forment et qui vont traverser dans la plus grande adversité un moment, quoi, un temps, un bout de route. Mais peut-être pour poursuivre sur l'enfance évoquée par Pascal Quignard et l'enfance face aux éléments, d'où vient ce personnage Beau ? Qu'est-ce qui vous permet de raconter, Eléa Marini ?
Vous avez cité deux grandes références pour moi. Je pense que il y a quelque chose qui... Comment dire, dans Des souris et des hommes, c'est un texte qui m'a profondément marqué, qui fait partie de mes grands coups de cœur littéraires. Et même si les personnages ne sont pas des enfants, non. Il y a ce personnage,
il y a quelque chose d'enfantin, en tout cas,
ouais. qui a cet élément, cette façon d'être un peu enfantine. Je crois que c'est quelque chose. J'ai toujours été sensible à ça, aux personnages d'enfants dans les textes. Je crois que par exemple le personnage de Frankie Adams dans le roman de Carson McCullers, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Les personnages aussi dans Le Chant des Revenants de Jasmine Ward, tout ça, ce sont des références très très importantes pour moi.
Qu'est-ce qu'ils apportent pour vous, ces personnages d'enfants, dans ces romans-là et dans le vôtre du coup?
Ce qu'ils apportent, je pense, c'est une forme d'audace qui est teintée en même temps de... Enfin, une effronterie, une audace et en même temps une grande lucidité sur l'aspect un peu désespéré d'une situation et qui peut se mouvoir en colère rentrée aussi parfois ou en désœuvrement. Et ça, c'est des choses auxquelles je suis très sensible dans le cinéma ou la littérature. Et je crois que c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de mettre dans le personnage de Beau.
Et peut-être aussi une manière d'être vis-à-vis du langage. C'est qu'on a dit aussi, au tout début, en évoquant le titre que vous avez choisi pour ce premier roman, l'oralité, on l'entendait là. Et pour nous, c'est important de faire entendre une scène dialoguée. Elles sont très nombreuses, elles sont particulièrement soignées. Et forcément, dans un dialogue ou dans une confrontation, par exemple ici, enfant et adulte, il y a quelque chose de la langue de l'enfant. De son éventuelle insolence, de sa langue particulière, quoi. C'est inévitable, l'enfant, ça... Voilà. Est-ce que ça vous permet aussi ça?
Oui, je pense que ça permet vraiment ça. Ça le facilite, effectivement, parce que ça permet peut-être de jouer encore plus avec les expressions imagées, avec... Voilà, un peu d'inventivité qu'on va pouvoir placer dans la bouche d'un enfant un peu plus peut-être que dans la bouche d'un adulte. Encore qu'il y a aussi le personnage d'Alma qui peut s'amuser aussi avec la langue puisqu'elle parle une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Mmh. Donc tout ce rapport au langage et au dialogue, il était très important pour moi. Et c'est vrai que j'étais très sensible au fait que ça prenne une place prépondérante dans le texte. Je pense qu'encore une fois, je reviens à Des souris et des hommes, c'est un roman qui est très dialogué. Je trouve ça absolument sidérant, la façon dont, dans des choses aussi... qui vont aussi peu dans l'interrogation de la psychologie des personnages, on peut, à travers ces dialogues, saisir beaucoup de choses de l'humanité de ces personnages, de la rudesse, de la brutalité, de la tendresse aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui était très important pour moi aussi, et le personnage d'un enfant facilite ça.
Et j'ai dit que c'était deux textes attentifs à la vulnérabilité des êtres, et tous autant qu'ils sont, ces êtres, y compris, on n'aura évidemment pas le temps de faire le tour de toutes les questions, mais par exemple des êtres déplacés, des êtres réfugiés, des peuples qui ont été massacrés, mais la question de l'enfant permet peut-être d'appuyer encore plus sur la vulnérabilité. Il y a aussi des enfants dans votre roman, Julia Lepère. Autre décor, autre situation, autre possibilité pour eux de vivre, mais néanmoins, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question-là des personnages d'enfants dans votre roman ?
Dans les personnages enfants, je pense aux enfants de la ville de paix et je pense du coup aussi à Molly Fall, quoique sortie de l'enfance, pour moi fait vraiment partie de ces personnages enfants. Pour la question des enfants de la ville de paix, il y avait cette histoire du conte de Peter Pan qui est un peu une toile de fond du récit. Et donc, bien sûr, je les assimile beaucoup aux enfants perdus. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de traiter aussi de manière l'enfance. Il y a à la fois la sauvagerie et la brutalité des enfants de paix.
Et paix étant ce territoire ville, voilà, de l'une des parties de votre roman.
Oui, merci de le préciser.
Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça.
et du coup, cette idée aussi, ce refus justement de grandir, de passer à l'âge adulte, ce refus de mourir, c'est cette idée que l'enfance peut aussi comporter un caractère peut-être mortifère, peut aussi se figer. Et que l'enfance, c'est aussi le moment où on est tellement vulnérable et sensible que toute forme de violence est ressentie fois mille, et toute forme de... Et donc, l'existence de ces enfants est finalement assez peu souhaitable. Et ils se débrouillent un peu comme ils peuvent, dans une forme de sauvagerie, mais assez peu de douceur, finalement. Alors que Molly Fall est plus un pendant de l'enfance, dans une douceur totale, dans une acceptation totale, un peu comme une figure de l'idiote, enfin pour faire un peu une référence à Dostoïevski, c'était un peu ça que je voulais pour Molly Fall, et à la fois avec cette détermination de pouvoir aussi dire non, parce que je l'ai aussi créé en miroir avec Molly Bloom de Joyce, donc qui est un personnage féminin qui dit toujours oui, enfin pour vraiment le résumer grossièrement, mais en tout cas il y a ce monologue où elle dit oui à la vie, oui aux fleurs, oui au désir et tout ça. Et que justement, ma Molly folle à moi était plus une Molly du refus et à la fois qui arrivait avec ce refus à ne pas être dans la violence, à se créer une forme de bulle. Et même si elle subit cette violence, elle ne semble pas tout à fait la toucher.
Ce faisant, vous venez aussi de répondre à notre auditeur Gabriel qui vous a lu Julia Lepers, qui a adoré votre livre, qui s'est senti vraiment pris comme dans un sortilège dans votre prose et qui vous demandait d'expliciter la référence à Peter Pan, mais vous venez de le faire. On va écouter un extrait de votre livre, La mère et son double.
Ma caméra filme la scène de haut en contre-plongée. Sur mon écran, je vois trois enfants sortir de l'église, des bougies allumées à la main. Un chien rôde aussi, montrant les dents. Peter est hors champ, mais son grand rire ébranle la caméra. Il se change presque aussitôt en jappement. Les enfants jettent un bâton vers le chien pour le faire fuir. De la bave coule de sa gueule et fume en tombant sur les pavés brûlants. Mon drone prend du recul et de la hauteur. Parvient maintenant à embrasser Peter et les enfants dans le même plan. Ces derniers ouvrent la marche. Peter les rejoint en courant, sans le chien dont on entend toujours les aboiements. Les enfants se mettent à l'imiter, bruyamment et au loin. Les hurlements des chacals leur répondent. Ils arrivent à l'endroit où les pavés laissent place au chemin qui va jusqu'à la mer. On voit le sable soulevé par leurs pieds. Tout autour de Peter, à quelques mètres derrière eux, la terre semble se vider. Cela frappe d'abord comme un soudain malaise ou une envie de vomir. Le vent paraît absent de la scène. Rien n'est bougé par lui. Les enfants sont suivis par leurs ombres, trois doubles dérisoires. Peter se retourne vers la caméra. Son corps se découpe dans la ville déserte. Alors, nous comprenons. Autour de lui, l'œil cherche en vain un repli, une échappatoire à la chaleur, une zone d'obscurité quelconque. Mais Peter ne projette nulle ombre sur le sable. Bientôt, lui et les enfants ne sont plus que des souvenirs. Ma séquence s'achève sur trois bougies qui brûlent seules à l'orée du chemin. On entend les cloches de l'église sonner. En rentrant tard dans la nuit, je me repasserai la scène de nombreuses fois, puis je resterai longtemps en arrêt sur image sur Peter, zoomant et dézoomant pour revenir par à-coup sur cette vision de l'homme sans ombre. Je la regarderai jusqu'au lever du jour, jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place en moi, jusqu'à ce qu'elle m'absorbe, que ma conscience s'efface, que je devienne moi aussi cette noirceur invisible, ce poids ôté à l'âme. Mon désir de nuit devient irrépressible, une nuit semblable aux failles de l'océan, au sang dans mes veines, à une terre intouchée, souveraine, le temps d'un éblouissement.
Un extrait de votre livre, Julia Lepers, La mère et son double, pour évoquer probablement bien trop rapidement la manière dont vous nous faites entrer dans votre livre par une femme. Il y a plusieurs femmes, mais notamment il y a la narratrice d'une des deux parties du livre qui vient, avec une sorte de regard drone, faire un film qui n'existe pas. Et on parle d'un rapport au double, mais il y a quelque chose qui se double de la narration d'un film qu'on imagine qu'elle est en train de faire, Julia Lepers, et qui aussi baigne votre roman dans quelque chose de cinématographique. Et on sent que vous vous servez de ce quelque chose de cinématographique pour faire quoi ?
Je pense que la question du cinéma dans ce texte et ce que ça m'a apporté comme outil pour le récit, c'est que ça m'a permis aussi de faire découvrir la ville de paix, ce décor, et de faire apparaître les lieux au gré du bon vouloir de la réalisatrice et de ses impossibilités aussi. Et en fait, elle est dans une posture de créatrice. Moi, je la mets en scène. Et du coup, il y a comme ça une espèce de mise en abîme de la création qui me permettait de montrer aussi les choses comme en dézoom, je sais pas comment le dire.
C'est clair.
Enfin, et du coup, il y a cette idée-là qu'elle peut vraiment. Il y a une subjectivité du regard qui dès lors est posée. Et cette idée du film qui n'existe pas, elle vient aussi par rapport à une fiction existante qui est sans doute trop violente, par rapport à un cinéma qui est un peu écrasant, par rapport notamment au western avec la figure de l'Indien et tout ça. Il y a une histoire aussi qui est traumatique derrière. Et du coup, ce film qui n'existe pas, c'est comment faire pour recréer une fiction à partir d'un lieu mort, d'un lieu dont les gens ont été exilés, d'un lieu qui a été... voilà, où des massacres ont eu lieu. Enfin, là, du coup, c'est une référence directe aux natifs américains, avec cette figure de l'Indien qui, justement, disparaît de son film à elle, qui ne peut pas exister. Et elle se débat avec ça. En fait, elle est dans une impossibilité de créer ce film. Mais sa présence me permet, moi, d'éclairer certains lieux, de les transformer aussi.
Et de re-regarder, il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression, dans le film qui est, on peut se refaire le film avec le côté, cette expression qui permet de peut-être relire la vie ou relire des événements passés. Elle peut rembobiner d'une certaine manière, Julia Lepers.
Complètement. Oui, c'est très juste. Elle rembobine. En rembobinant, elle voit des choses qu'elle n'avait pas vues dans le réel. C'est vrai que la caméra est aussi, un objet presque magique qui permet de faire apparaître l'invisible et le monde derrière le réel. Ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, qu'elle voit apparaître sur sa caméra des choses qu'elle ne voit pas dans la réalité. Et donc, elle se demande presque si elle ne les invente pas, mais en même temps, la caméra est une preuve. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment se repasser le film et se dire « Non, il s'est bien passé ça, il y a bien eu une disparition, il y a bien eu un fantôme. » Et c'est ce phénomène d'apparition-disparition que permet forcément l'image qui était très utile pour moi de traiter de cette manière.
Sachant qu'à la fin, nous qui sommes lectrices, lecteurs, mais aussi presque monteurs de ces deux mondes qui finissent par se rejoindre, il y a comme une sorte de deux images qui se superposent et qui donnent lieu à un épilogue film final. J'espère que c'est suffisamment mystérieux et que ça donne suffisamment envie d'aller y voir par soi-même. Le book club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque semaine à cette heure-ci, l'heure est venue de parler un peu de littérature jeunesse dans cette émission avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Vous avez lu ces derniers jours une bande dessinée dont vous nous dites qu'elle fait une formidable lecture pour les adolescents, les grands adolescents en particulier.
Oui, une très jolie bande dessinée qui est aussi un premier livre. Sa jeune autrice Thaïs Guimard n'a pas 30 ans. J'ai pensé en la lisant qu'elle était à mettre sous les yeux de grands adolescents ou adolescentes, en effet, ceux et celles qui s'apprêtent à entrer dans la vie active ou dans cette période de l'existence un peu entre deux, ce moment où il s'agit de quitter pour de bon l'enfance et goûter à un mode de vie adulte sans en avoir toutefois encore ni toutes les charges ni tous les bénéfices. Période de la vie propice aux joies autant qu'aux doutes et aux angoisses, période qu'on désigne parfois par ce néologisme l'adolescence. Cela fait longtemps que la fiction sous toutes ses formes a saisi son potentiel narratif. Je pense par exemple à la fameuse série de Lena Dunham Girls, chronique de la vie d'une bande de quatre copines d'une vingtaine d'années à New York qui, au sortir de l'université, essaie de se faire une place dans le monde, tout en expérimentant encore beaucoup sur le terrain du travail comme sur le terrain amoureux. J'ai pensé à Girls à la lecture de cette bande dessinée. Retour à Carmélite, c'est son titre. Elle a paru aux éditions Sarbacane.
Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette BD ?
C'est l'histoire de Marthe, 27 ans, de retour chez sa mère et dans sa ville natale pour finir l'écriture de sa thèse. Son sujet d'étude est un immeuble HLM de son quartier natal en pleine gentrification, immeuble qui l'a toujours intriguée par son architecture singulière, tout en rondeur et en couleur pop. Marthe partage ses journées entre grasse matinée, difficulté à se mettre au travail, retrouvailles avec ses amis d'enfance et rencontres hasardeuses sur Yes Cupidos, l'application via laquelle elle fait la connaissance d'un jeune homme qui vit justement dans cette résidence qu'elle doit étudier. Ça tombe bien.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre, Mathilde ?
Sa saveur tient d'abord à la justesse des dialogues, des situations, des personnages. Par exemple, le mélange de tendresse et d'amertume qui traverse Marthe face à ses trois amies qui sont, elles, en train de prendre leur envol. L'une, jeune artiste, expose, l'autre en couple depuis 10 ans à un emploi stable depuis déjà plusieurs années. Ses amis sont aussi occupés que Marthe et oisives, elles paraissent aussi ancrées que Marthe et flottantes. Très juste aussi les échanges aigre-doux entre Marthe et sa mère qui veille sur elle, tout en l'engueulant de ne pas avoir nettoyé les miettes sur la table de la cuisine, petits détails qui parleront à des ados devant supporter quotidiennement des aïeux encombrants. Cette bande dessinée travaille aussi de manière subtile le rapport au lieu, comment les espaces que nous habitons, dans lesquels nous vivons, influent sur nos états d'âme. C'est aussi une jolie réflexion sur nos liens au lieu d'où l'on vient, à ces endroits qui nous ont vus grandir. Marthe voit son quartier changer, il n'aura plus jamais l'allure qu'elle lui a connue. Se joue là aussi une forme d'adieu à l'enfance. Au centre du livre, la fascination pour cet immeuble HLM qui est le sujet de sa thèse. Immeuble conçu par une femme et dont l'architecture porte une dimension utopique. Marthe le dit, elle y voit l'image du futur comme la projection d'une manière de bien vivre. Elle découvrira que tout n'est pas aussi rose pourtant dans cet immeuble que la couleur de ses murs. De très nombreuses cases sont muettes et nous montrent le personnage parcourant la ville comme une méditation un peu mélancolique sur la façon dont les changements de nos vies s'incarnent dans les espaces que nous habitons.
Et vous avez aussi remarqué un rythme de narration singulier.
Oui, et c'est au fond ce qui m'a le plus touchée, je crois, dans cette histoire, la façon dont son rythme épouse celui de son personnage principal. Le récit progresse par une succession de séquences entrecoupées de pages muettes qui nous montrent Marthe dans différents moments de suspens, allongée sur un lit contemplant le plafond, la tête appuyée sur une table à la bibliothèque ou scrollant sur son téléphone. Oisiveté mélancolique dont on sent bien que quelques décennies plus tard, Marthe y repensera peut-être avec nostalgie. Plus que les péripéties, le quiproquo amoureux dans lequel elle se trouve prise, c'est cette tonalité, douce amère encore, qui marque d'autant plus qu'elle est figurée dans un style qui se fiche du réalisme, la palette de couleurs, le trait, la toponymie. Pensez au nom de cette ville natale pour le moins étrange, carmélite au pluriel. Clin d'œil peut-être au célibat subi de Marthe. Tout cela nous éloigne du naturalisme. Il s'agit d'envelopper l'histoire d'un halo d'irréalité et de douceur, comme si le livre murmurait à l'oreille de ses lectrices, les plus jeunes d'entre elles et eux en particulier. Devenir adulte, ce n'est pas une mince affaire, certes, mais on s'en sort. Les embûches sur le chemin ont même leur saveur, vous verrez.
On peut même se le répéter toujours, ça, Mathilde.
Ouais, absolument.
Franchement, c'est cadeau. Je vais en faire un t-shirt. On rappelle le titre de l'album ?
Retour à Carmélite de Thaïs Guimard. C'est paru aux éditions Sarbacane.
Et votre chronique Lecture Jeunesse est à retrouver sur le site franceculture.fr ou l'application Radio France. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, on l'a compris, j'espère, il y a le bruit des éléments, le chant des éléments, le rapport à la mer, au vent, à la chaleur dans les deux romans que nous avons évoqués aujourd'hui. Mais nous jouons tous les jours à un jeu qui consiste à chercher, à traquer presque de la musique dans les livres. On propose à nos auditeurs et auditrices de nous aider à le faire. Et en cela, on est vraiment preneur de toutes vos lectures. Vous pouvez nous écrire lebookclub@radiofrance.com. À chaque fois que vous rencontrez l'évocation d'un air musical, hop, une petite photo et vous nous l'envoyez dans la boîte mail de l'émission, et comme ça on a une collection. Mais on se quitte avec un extrait de votre livre Elia Marini, Le ciel, la mauvaise, où il y a de la musique. Elle mène Beau jusqu'à l'étage. Derrière une porte vitrée se trouve l'appartement qu'elle habite. Les murs y sont couverts de photographies encadrées, de peintures et de dessins d'enfants. Dans un coin du salon, un cheval à bascule et un tableau à craie miniature posé sur un chevalet. La femme le conduit jusqu'à une chambre au papier peint fleuri. Beau détaille tout ce qu'il voit, subjugué. Le couvre-lit à franges roses, la dinette et les poupées posées sur un coffre à jouets. La boîte à musique, sur un meuble laqué blanc. Il respire le talc et la lotion, des odeurs de propre, de vie charmante. La honte s'étale, prend des formes nouvelles. Il tire sur le bas de son t-shirt informe, lâche le sac plastique par terre. C'est la chambre de ma fille, elle est à l'école. Tu peux te reposer dans son lit, t'as l'air fatiguée comme le sont les grands comme moi. Et ta mère, quand tu la retrouveras, elle te voudra frais comme un gardon. Elle voudra pas voir qu'elle t'a fait du souci. Je vais pas coucher là-dedans, réplique Beau. La femme est surprise. Et pourquoi pas ? C'est pas une jolie chambre ? Si, justement, pense Beau. Mais il ne répond pas. Alors tu te reposes bien et moi je vais appeler au numéro que tu m'as dit. Le gamin reste seul à tripoter les objets. Tout lui paraît doux, brillant comme de la nacre. Il met en route la boîte à musique, se glisse timidement dans le lit. Il hume le parfum qui se dégage des draps. Imagine la fillette qui vit là, dans cette villa, la chanceuse. Les notes de la berceuse le reposent. Merci beaucoup, Julia Lepère, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour évoquer votre livre La mer et son double, paru aux éditions du Sous-Sol. Et merci, Eléa Marini, d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre Le ciel, la mauvaise, paru aux éditions de l'Olivier. Aujourd'hui, c'était Alexandre Dang à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et à vous qui nous écoutez. Vous pouvez continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Leibegovitch.